Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il a le charisme de José Mourinho. Quand il entre dans une salle, on sait tout de suite qui est le patron. Il a le charme d'Hervé Renard. Les chemises pas toujours blanches, mais toujours bien repassées. Il a surtout l'âge d'Aimé Jacquet, la silhouette de Carlo Ancelotti. Et s'il partage quelque chose avec Zinedine Zidane et Pep Guardiola, je dirais, disons qu'il se rapprochera très bientôt de leur style capillaire. Voilà. Bref, il est le coach dont tout le monde rêve et je suis très heureux que ce soit le mien. Comment ça va, Maxime Dupuis ?
Bonjour Martin, ça va très bien. Écoute, il y a toujours un moment, alors il faut que je parle un peu de ce moment d'émission qui arrive toujours au début, donc, et où je me demande à quelle sauce je vais te manger. En fait, c'est très dur pour moi parce que je ne peux rien préparer finalement. Je peux pas, je dois relancer tout ça. Mais finalement, je trouve que tu es assez prévisible.
Ah ouais, bah, ça tourne toujours autour de tes cheveux.
Hein, on en revient, les cheveux, le poids, alors que je tiens à le dire, je n'ai jamais été aussi mince depuis 5-6 ans.
Depuis 5-6 heures. Disons que tu as raté le repas de midi.
Aussi, ouais, c'était très léger parce qu'il y avait beaucoup de travail. Mais bon, voilà.
Voilà. Mais simplement, alors, c'est vrai qu'il faut, essayer de te redonner justice, on va dire, pour ceux qui nous écoutent qu'en podcast. J'imagine que vous imaginez une espèce de personnage de 127 kilos sans un cheveu. Alors, allez nous voir sur Eurosport.fr voilà. Ou sur Facebook. Comme ça, vous vous rendrez compte que j'exagère pas tant que ça. En fait.
Non, mais justement, mettez-le dans les commentaires, vous allez voir. Non, mais c'était sérieux, quoi. Merde.
Bon, allons-y.
Alors, non, avant, je raconte un truc. Pour ceux qui D'accord. viennent nous voir, alors je ne sais pas si ça se verra, parce qu'on a une luminosité. On enregistre aussi, il faut le dire, beaucoup ce qu'on dit en remote, parce qu'avec le coronavirus, on est parfois obligé de rester chez nous. Et aujourd'hui, il fallait que je passe au maquillage. Manque de peau. C'est ma femme qui est aussi en côté de travail qui m'a maquillé. Et je vais vous dire un truc. J'avais l'impression qu'elle me passait une éponge Scotch Brit.
Oui, ben.
Elle appuyait. Mais je pense qu'elle m'a à peu près flingué la peau. Je pense que je vais faire une allergie parce que j'ai la peau toute rouge parce qu'elle a appuyé beaucoup trop fort.
En tout
avec
cas, ça se voit pas. Là, tu es blanc, mais blanc comme un linge.
C'est parce que je suis face à la lumière. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Et c'était pour appuyer parce que sinon, si je ferme les volets, je suis Donald Trump.
Ou Valdemar Kita,
voilà.
Ça marche aussi.
J'aurais pu relancer, mais j'arrête là.
De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, pas de Valdemar Kita. Notre premier sujet, on va parler de l'OM et on va se demander est-ce que McCourt, à travers toutes les sorties dans la presse, est en train de sauver l'Olympique de Marseille. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il annonce que Marseille va bientôt, enfin, en tout cas l'objectif à moyen et long terme, c'est de gagner avec des champions. Est-ce que ça rend service à Marseille ? C'est la première question qu'on se posera à Maxime avant de parler d'un revenant en Ligue 1.
Ouais, et on va parler d'un autre club qui était en Ligue des Champions, d'un autre club qui a eu du mal en Ligue des Champions, c'est Rennes, et évidemment, j'allais dire Pep Genesio, mais non, évidemment, Bruno Genesio. Pourquoi Pep ? Bah, vous savez, on va revenir sur le débat, tout simplement. Il a une drôle d'image, Genesio, forcément une bonne image par son passage à Lyon. Ben, on va se poser la question suivante, mais que vaut-il vraiment ? Et alors, on va pas dire ça, mais est-ce que Pep est une pipe en fait, voilà, tout simplement.
Maxime, oui, je sens qu'il en forme aujourd'hui.
Non, mais il y en a beaucoup. On en reparlera, mais je pense qu'on lui fait quand même un mauvais procès. Mais tout simplement, la question de fond, ce sera de se dire est-ce que Genesio est fait pour Rennes ? Est-ce que Rennes est fait pour Genesio ? Tout simplement, passer de Stéphane à Genesio, est-ce que c'est une bonne affaire ? On en parlera dans la deuxième partie de l'émission et dans la troisième.
Oui, on essaiera de dépassionner le débat en fait sur Genesio.
Voilà.
D'être objectif. Et dans la troisième, on parlera d'Antoine Griezmann.
Ça fait longtemps.
Comme une semaine sur deux ici. Mais non, mais parce que le pauvre Antoine Griezmann est de retour sur le banc des remplaçants au FC Barcelone. C'est un petit peu injuste parce qu'il avait fait un super mois de janvier, même un très bon début de mois de février. Mais il a été sacrifié, donc on se posera la question. Est-ce qu'il est aujourd'hui condamné à être le super sub ? Et puis, vous savez qu'il y a le match retour face au PSG qui s'annonce. Si ça se passe pas pour le Barça, je pense que Griezmann, il va prendre cher. Je pense qu'il va prendre cher. Donc, on va aller en parler d'Antoine Griezmann dans la fin de l'émission.
Et si on parle de notre soupe interne, ce qui est le plus terrible, on en parlera après, c'est que ça ne nous est pas venu automatiquement, ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est presque devenu un non-événement qui se fait remplacer au FC Barcelone, et c'est peut-être un peu ça qui est le plus triste.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais Maxime, on va démarrer par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille et Franck McCourt. Alors, il ne vous a pas échappé la semaine dernière que Jacques-Henri Hérault, juste après qu'on ait enregistré la Stream Team, ça ne va pas ranger nos histoires, cette affaire. Donc, c'est fait licencier. Ben non, ce n'est pas fait licencier. Non, c'est pas fait licencier. Il n'est plus président de l'Olympique de Marseille. C'est Pablo Longoria qui a pris ses habits. Et Franck McCourt est venu jouer les pompiers de service cette semaine dans la presse à Marseille en rencontrant les supporters. Il nous a dit que l'OM rentrait dans le plan 2 du Champions Project, si j'ose l'appeler ainsi, même s'il ne l'appelle plus ainsi. Alors, il ne l'appelle plus ainsi, Maxime. Mais malgré tout, l'objectif à moyen et long terme, ben, c'est toujours de gagner les Ligues des Champions. Est-ce que McCourt va sauver l'OM?
Comme tu l'as dit, il est venu faire le pompier, il a pris son jet de Boston et puis hop, il est arrivé toute la semaine pour essayer d'éteindre le feu. Il a donné deux interviews justement à la Provence et à l'équipe où il explique justement là où il veut en être. Alors tu parlais du plan 2, moi j'ai l'impression qu'on repart sur un plan 1 tout simplement. On repart d'une page blanche, c'est-à-dire que l'équipe qui faisait l'OM avant, donc, c'est-à-dire Jacques-Henri Hérault qui est désormais au conseil de surveillance, a été évincé. Villas-Boas n'est plus là, Ouvrard notamment, c'est pas certain que ça reste, toutes ces personnes-là, et on repart de zéro. Parce que, évidemment, l'OM était dans une situation de stagnation absolue, voire même de régression. C'est la tentation, finalement, de la page blanche. Voilà. Et le plus dur quand on a une page blanche, c'est de savoir avec quoi on va écrire dessus. Est-ce que l'OM repart avec un stylo bic ou un Mont Blanc? En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, on ne sait pas très bien. Et en l'occurrence, on a quand même l'impression qu'on est plus proche du bic ou du Mont Blanc. Parce que. Il a expliqué qu'il fallait peut-être maintenant éviter les erreurs de communication telles que le Champions Project, c'est-à-dire des expressions toutes faites qui disent tout et pas grand-chose finalement. N'empêche que j'ai relu les interviews qu'il a données à nos confrères et il a quand même dit que la communication, c'était évidemment quand même important parce qu'évidemment, il faut dire ce que l'on fait maintenant, mais que l'OM va pouvoir faire avec Longoria président et Sampaoli, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation parce que justement, il manque quelque chose pour moi dans ce qu'il explique finalement. McCourt, c'est les moyens. Voilà.
Là, et oui, parce que je pense que. Alors, on va juste sur RMC pour prendre une citation au hasard. Donc, il a dit: personne n'a été plus déçu que moi parce qu'on veut tous la même chose, le Big Championship, voilà. Traduire la Ligue des Champions pour l'OM. L'ambition est toujours là et on va poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif, c'est-à-dire gagner ce Big Championship. Gagner cette Ligue des Champions. Moi, ce qui me fait peur avec Marseille, alors on parlera des moyens après de ce qui est mis en œuvre par la suite, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce soit Hérault, bon, il n'est plus là, mais même McCourt aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur une direction qui est complètement hors des réalités du contexte marseillais. D'abord, ils ont voulu copier un modèle, faire de Marseille une entreprise comme une autre, etc. On le sait, business model, etc. À Marseille, c'est impossible, on l'a répété, on l'a écrit sur le site. Et quand je vois McCourt débarquer de Boston et dire « on va être l'outsider, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire et à terme, on va gagner avec des champions », c'est le discours d'un homme qui n'a aucune vision, aucune conscience des forces en présence.
Qui est en prise avec la réalité, tout simplement.
Oui, voilà, qui n'a aucune conscience du gouffre énorme, immense, qui sépare l'OM du reste de l'Europe. C'est une caricature, en fait. On voit qu'il est complètement déconnecté. Et on sait qu'il ne gère pas les affaires courantes, on sait qu'il est aux États-Unis et que c'est des hommes ici qui gèrent les affaires courantes. Alors, Hérault était complètement hors sol. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec Marseille, c'est qu'on est sur une réalité qui ne correspond à plus rien dans les propos de McCourt. Même le PSG avait mis du temps avant de dire qu'il voulait gagner avec des champions. Je me souviens que pendant longtemps, l'objectif, c'était une demi. Et pourtant, le PSG était largement mieux armé que l'OM aujourd'hui, qui est même loin d'une cinquième place en championnat. Et on parle de Ligue des Champions. Moi, c'est ça qui m'effraie. D'autant que les promesses à Marseille, il vaut mieux les tenir.
Oui, c'est ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'en France, il n'y a qu'un club qui assume de vouloir gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Et évidemment, on ne va pas comparer les deux budgets. Et ce qui est presque, alors, pas inquiétant, mais donc il dit qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Après, il explique, c'était, il me semble, dans les colonnes de l'équipe, il fait l'analogie avec David contre Goliath. Il dit 99% des gens sont dans cette position. Et c'est celle que je préfère, donc d'être du petit qui gagne contre les gros. Il dit ce serait une belle histoire. Et donc, on n'a pas d'idée, on n'a pas de pétrole, mais il faut avoir des idées. Et c'est là que c'est dur. Mais le problème aussi, il y a une autre phrase qu'il rajoute parce que ça m'a marqué. Quand on regarde entre les lignes, c'est intéressant. Il dit le sport, ce n'est pas je prends une grosse somme d'argent, je la jette dans une équipe et voilà. Bah, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu. Ouais. Voilà. Ça a toujours été à l'avantage des plus riches, évident comme partout. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pouviez rêver en étant un petit parce que sur une aventure. Sauf qu'aujourd'hui, cette structure-là n'existe plus parce qu'il y a tellement d'écart entre un club comme l'OM qui a 140 millions de budget, par exemple, et le Bayern qui en est à 600 millions. Donc voilà, là, il est en train de vendre du rêve. Et quand il dit avoir des idées, au fond, là, ce qu'il espère maintenant, si on traduit aussi, c'est que ce qu'a fait l'OM en trading, le Dortmund du Sud, ça ne marche pas terrible, voilà, tout simplement. Et ce qu'il attend de Longoria, ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il a une vision très américaine du truc. Et en gros, à un moment, il explique aussi de travailler avec les statistiques. Ça dit quoi, travailler les statistiques? C'est un peu, c'est Moneyball, vous voyez, c'est le stratège, c'est les films américains, c'est la MLB, où vous essayez de remplir ce que vous n'avez pas en moyen de changer et le faire par une vision très statistique du truc. C'est compliqué. Je pense qu'il s'appuie aussi sur ce qu'a fait Longoria cet hiver, qui a hyper bien travaillé, on l'a dit. Il a réussi à bien vendre des joueurs comme Sanson et à récupérer un joueur comme Milik. Donc, au fond, la stratégie que je vois derrière ma courte, là, elle est toute simple. C'est demander à Longoria de faire pareil cet été, de continuer après pour réamorcer la pompe. Mais on va pas
se mentir. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes une Ligue des Champions.
Et voilà, ça suffit pas. Et ça suffit même pas être champion de France.
Mais non.
Voilà, parce que il faut le dire, au début, quand il est arrivé, il y avait quand même cet objectif de dire, je crois qu'il avait dit à peu près quelque chose comme il faut toujours être dans la lutte. Voilà, on a réussi quand on sera dans la lutte. Évidemment, quand vous êtes dans la lutte à chaque fois, il y a bien une fois, de temps en temps, où le Paris Saint-Germain va baisser de pied, même avec sa puissance. Ça peut être cette année, c'était en 2017 avec Monaco, et que l'OM s'engouffre là. Mais le problème, c'est que là, il en est très loin. Et pour revenir à sa visite, il est venu un peu. En fait, il est venu calmer tout le monde. C'est bien d'un côté, parce que comme il dépassionne tout ça, comme il est loin, il a un recul qui lui permet de ne pas être trop marqué par les événements, ce qui était plus possible avec quelqu'un comme Héro. Mais le problème, c'est que derrière, quand il faut parler de la suite, il a son agence de com qui lui a donné des éléments de langage. Et puis, il y est allé, voilà, tout simplement. Parce que là, c'est ça. De toute façon, à Marseille, il ne peut pas dire autre chose. Il peut pas dire on est obligé de dire qu'on vient pour gagner quelque chose. C'est impossible. Maintenant, il faut mettre la réalité à côté du rêve, c'est-à-dire que tout simplement, c'est de l'argent, tout simplement. Il va falloir réinvestir.
Exactement. Ou alors, faut un projet hyper structuré, très incarné, très en prise avec la réalité. Je pense à Lyon, par exemple, qui contrairement au Paris Saint-Germain, enfin, n'a pas les moyens du Paris Saint-Germain, qui est en lutte pour le titre cette année. Mais il y a un vrai projet à long terme, il y a un vrai. Ouais, derrière, il y a le centre. C'est un projet sur 20, 30 ans, l'Olympique Lyonnais. Et c'est ce qu'il faudrait à Marseille. C'est un projet comme ça. Sauf qu'à Marseille, c'est impossible. On le sait très bien que c'est absolument impossible d'avoir ce projet-là. Et aujourd'hui, Marseille est distancé, que ce soit par le Paris Saint-Germain, par sa puissance financière et puis par d'autres choses, par Lyon, pour moi aussi, par Monaco, qui a aussi un projet plus lisible que celui de l'Olympique de Marseille. Lille, je les mets un petit peu à part parce que, au-delà de cette saison, bon, il n'y a plus Campos. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais même en France, on est quand même sur des projets. Il y a des projets qui sont beaucoup plus lisibles que Marseille, qui n'ont pas forcément énormément plus de moyens, mais qui ont au moins une direction. Là, la direction, alors elle peut être incarnée par Longoria. C'est vrai qu'elle peut être incarnée par Longoria, cette direction. Mais c'est encore trop frais, c'est encore trop fragile, c'est encore trop friable. C'est impossible pour moi. Son discours à ma courte, il est intenable pour moi.
Mais l'OM aussi a les défauts de ses qualités. Vous reprenez les années 90, les meilleurs de l'OM avec Bernard Tapie. L'OM à l'époque était une grande équipe, pas forcément, j'allais dire, un grand club dans sa structure. C'est-à-dire que quand vous sortiez de l'équipe première et toute la constitution qu'il y avait, ça c'était formidable. Mais quand vous alliez autour, justement, tu parles de la formation, tu parles des infrastructures, ça n'y était pas. Voilà. Alors évidemment, ça a progressé, tout ça. Mais le problème, c'est que l'OM est encore loin de toute cette infrastructure qui est aujourd'hui indispensable pour aller très loin. Voilà. Malheureusement, Héro, il avait au moins raison sur une chose, c'est-à-dire que on peut le regretter ou pas, c'est qu'il faut construire autour du. On ne gagne pas avec juste une équipe. Voilà. Il faut construire, il y a des trucs marketing à faire. Là, il était allé bien, bien, bien trop loin. Et à un moment, ça reste l'OM et c'est un club de foot avant tout, et surtout celui-là. Mais il y a besoin de ça à côté. D'ailleurs, il l'a répété, Macourt. Maintenant, c'est de remettre le curseur un peu plus au centre et de réussir sans avoir l'impression de courir derrière le temps ou de marcher sur du sable, parce que c'est dur, ça ralentit tout simplement. Et là, l'OM va se retrouver confronté l'été prochain, encore une fois, à possiblement aucune participation en Coupe d'Europe. De toute façon, hormis Ligue des Champions, ça ne rapporte rien, donc ce n'est pas la peine. des rentrées d'argent de la Ligue des Champions qui ne viennent pas. Donc, il faut faire avec, avec un déficit qui était déjà de 91 millions, qui s'est alourdi à cause du Covid. Et donc, un club qui n'a pas les moyens de, des ambitions de son actionnaire, de son propriétaire. C'est ça le plus terrible. C'est qu'à un moment, alors je ne sais pas comment fonctionne Longoria, comment fonctionne. C'est comme dans une entreprise. C'est-à-dire que si McCourt dit qu'il faut gagner la Ligue des Champions, bah, que Longoria dise à McCourt, OK, comment je fais ?
Bah oui.
Voilà.
Oui.
Donne-nous les moyens et on va le faire. Parce que c'est comme un objectif. C'est-à-dire qu'il donne un objectif à ses employés, qui sont tous les joueurs qui sont la direction, c'est-à-dire. Allez-y, gagner la Ligue des Champions. Bon, ben on fait comment ? Ouais, explique. Et il n'y a qu'à montrer, il a qu'à faire un PowerPoint. Il sort le PowerPoint de Jacques Henry. Et il montre que bah, pour ça, il faut un investissement XXL. Et que l'OM en est évidemment très très loin. Et se pose quand même la question finale. C'est-à-dire qu'il est arrivé en disant on mettra 200 millions sur 4 ans, il me semble. À l'époque, on le savait déjà, ce n'était pas suffisant pour lutter, pour être tout en haut. C'est que, la phase 2, c'est quoi ? Tout simplement. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il remettra la main au pot parce que ça me paraît difficile autrement s'il veut vraiment réamorcer la pompe. Mais c'est compliqué.
Oui, pour l'instant, c'est des énormes points d'interrogation. Alors, il y en a un autre qui a un point d'interrogation assez énorme qui revient en Ligue 1 après une expérience en Chine. C'est Bruno Genesio qu'on est assez content de retrouver et qui va entraîner le Stade Rennais. Alors, première réflexion que je me faisais quand même, c'est que si on nous avait dit que Genesio entraînerait le Stade Rennais quand il était à Lyon, moi, je le voyais attaché à vie à Lyon parce qu'il a une vraie image de Lyonnais et je trouve que c'est déjà un tour de force de sa part d'arriver à la tête d'un club comme le Stade Rennais qui est un joli club hein, qui a un top 7 top 8 de notre Ligue 1 quand on est Bruno Genesio, c'est déjà un tour de force.
Alors oui et non parce que je suis d'accord avec toi, l'image lyonnaise, mais on sait pourquoi il est là.
Oui, Florian Maurice.
Et voilà, donc au fond ça reste dans la, et c'est marrant parce que ça on pourrait en parler des heures aussi du réseautage et tout ça, des fois on en parlera après, peut-être du manque d'imagination des fois de se dire bon bah on va vers ce qu'on connaît. Genesio, en fait je le redirai pas, mais avec Genesio je pense que Maurice se dit je sais ce que j'ai et je sais ce que j'ai pas avec lui. C'est une forme de sécurité, il sait que ça va donner un et qu'il va pas lui tirer dans les pattes parce que les deux sont liés. Mais la question est de savoir, Martin, si Rennes veut, bah, un peu pareil que l'OM, réamorcer la pompe, est-ce que d'avoir Genesio, ben, c'est suffisant ?
Alors, on va essayer de dépassionner le débat sur Bruno Genesio. Depuis que sa signature est annoncée du côté du Stade Rennais, ça s'enflamme de partout. Évidemment, sur les réseaux sociaux où il se fait dézinguer. Il se faisait déjà dézinguer quand il était à Lyon. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est trop sévère avec Bruno Genesio ? Quel est son bilan ? Quel type d'entraîneur il est ? Qu'est-ce que peut espérer Rennes ? Est-ce que c'est un entraîneur taillé pour Rennes ? Trop grand, trop petit ? Bref, on va essayer quand même de faire le tour de la question Genesio en dépassionnant le débat et en allant au-delà des stéréotypes. Alors, en étant tout à fait objectif, on va essayer de le rester au moins en première partie. À Lyon, Genesio, c'est 3 qualifications en Ligue des Champions sur 4 tentatives. C'est 55% de victoire, donc le troisième ratio derrière Gérard Rouillet et Alain Perrin. Voilà, ça c'est pour Bruno Genesio à Lyon. C'est 0 titre. Et en Chine, on sait qu'il a dirigé le club de Beijing Guan. Il termine vice-champion de Chine en 2019. C'est un peu plus compliqué, on va être très honnête, hein, de juger son parcours en Chine parce qu'on ne suit pas le championnat chinois avec Maxime. Mais voilà.
Donc, cela dit, il n'est pas raté, voilà.
Il n'est pas raté, exactement. Pour moi, il y a des vrais accros, mais il y a aussi des réussites chez Bruno Genesio. Le vrai accro, c'est la saison 2016-2017, pour moi, où il fait certes demi de Ligue Europa, mais quant à Tolisso, Lacazette, Fekir, Valbuena, il y a Depay, je crois, qui arrive cet hiver-là aussi, que tu as peut-être une des meilleures équipes de l'OL de la décennie et que tu termines à 11 points du podium, c'est un échec. Ça, c'est clair. En moyenne, j'ai calculé, c'est près de 20 points de retard sur le champion chaque fois qu'il est à Lyon. Donc, c'est beaucoup. Après, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? La première saison de Rudy Garcia, Lyon a terminé 7e, n'a pas été qualifié pour la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Cette année, ils sont en lutte pour le titre. Donc, on voit que Genesio, lui, il a toujours été plus ou moins dans les clous de ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire une qualification européenne et 3/4 du temps en Ligue des Champions. Finalement, il est plutôt resté, il a plutôt rempli les objectifs. Il est resté plus de 3 ans à Lyon. Ce qui est quand même costaud. Son vestiaire ne l'a jamais lâché, ça c'est hyper important. Je dirais que Genesio, en fait, si je devais résumer Genesio, c'est son équipe, en tout cas, c'était une équipe de coups Genesio, c'est un entraîneur de coup. On pense à City, la victoire face au PSG aussi, enfin les victoires face au PSG et face à City. Un entraîneur de coup, mais qui manque d'éclat. Voilà. Pour moi, on entre dans le cœur du problème de Genesio, c'est ce qu'il va proposer, c'est ses idées directrices, c'est sa gestion tactique. Il n'a pas d'idées directrices suffisamment claires pour qu'on puisse les distinguer. Et ce qui a fait son procès, ce qui a fait qu'on l'a condamné, pour moi, c'est deux choses. C'est sa communication qui était très défensive et même ce côté un peu monsieur tout le monde qui l'a vraiment desservi. Et j'ai trouvé les gens très sévères vis-à-vis de lui parce que ça, il n'y est pour rien. Et c'est que ce n'est pas un dogmatique. Et on est dans l'ère du dogme, voilà, il faut avoir des idées très claires, très précises, si possible, offensives, comme ça, ça contentera tout le monde. Et c'est ces deux choses-là qui font que, pour moi, on a un peu altéré le jugement qu'on avait de Genesio, qui, pour moi, reste un entraîneur ni excellent, mais ni dramatique. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un entraîneur secure, c'est un entraîneur sécurité. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il a prouvé à Lyon.
Mais c'est un peu pour ça qu'il était sur les tablettes de Montpellier. Je pense qu'un club comme Montpellier lui allait très bien. Il faut être dans le coup, ne pas descendre, si possible faire une bonne saison. Et Genesio ressemblait à ça. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé, il dit aussi qu'il n'était pas taillé pour Lyon, tout simplement, pour l'ambition lyonnaise. Et preuve en est, c'est comme tu as dit, c'était pas génial. Alors évidemment, il y a les 55% de victoire. Enfin bon, là, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ce que je vois, c'est qu'il
qualifie trois fois en Ligue des Champions, ce qu'on a réussi à faire Rudy Garcia, par exemple, l'année dernière.
Oui, alors, Rudy Garcia, il arrive quand la situation est déjà mal embarquée et le championnat se termine en 28 journées. Donc, je ne vais pas faire Ola, c'est dire qu'il pouvait revenir, mais quand même, c'est difficile. Ouais, mais je suis quand même d'accord, ce n'était pas terrible. Voilà.
On ne parle pas de Silvino, hein, parce que c'est… Là,
oui,
c'est...
voilà. Alors, je vais faire un parallèle justement avec Rudy Garcia, parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent reproché à Rudy Garcia quand il était à l'OM, c'était la girouette, c'est-à-dire qu'on changeait tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de ligne directrice. Là, Rudy Garcia, il a trouvé une équipe qui gagnait, qui avançait, même s'il y a à redire en ce début d'année. On comprend la structure. Genesio, moi, j'ai eu l'impression pendant 3 ans que c'était du 4-3-3, mais ça tournait, on changeait les mecs. Dès qu'il y avait un problème, en fait, c'est-à-dire que la ligne directrice était très dure à trouver. Et comme tu l'as dit, les coups d'éclat, c'était ça, c'est les sprints en championnat. Le 6-1 contre Monaco, je crois, la dernière journée pour accrocher la Ligue des Champions. Des victoires contre le PSG. En fait, c'était une équipe, je pense qu'il n'avait peut-être pas la poigne pour cette équipe-là. C'est-à-dire que les jeunes l'aimaient bien. Ils faisaient le job quand il fallait, mais quand il ne fallait pas le faire et qu'ils n'avaient pas trop envie, finalement, bah, ça ne donnait rien de bon. Voilà. Maintenant, il arrive à Rennes, qui n'est pas du calibre de Lyon, il faut quand même le rappeler. Faut pas s'attendre à une révolution. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de passer au vent de fraîcheur de Stéphan. Alors, il y a sûrement des gens qui diront que Julien Stéphan, on en a fait peut-être plus que ce qu'il mérite. Moi, je pense que c'est un très bon entraîneur en devenir. Ouais, et que là, comme tu dis, tu es sur du sécure, c'est-à-dire que Florent Maurice l'a pris aussi pour ça, pour remettre une équipe d'équerre. Il a donné sa première conférence de presse vendredi. J'avais préparé sur une note marquée révolution. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, je ne vais pas tout révolutionner. Bah voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'entraîneur qui faille pour aller très haut. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est bien de dépassionner parce que, souvenez-vous, c'était d'ailleurs à toi qui te l'avais dit, Jean-Michel Aulas, il me semble, qui se mordait les doigts d'avoir laissé partir Genesio parce que finalement, souvenez-vous de la scène surréaliste en Coupe de France, il devait le prolonger et finalement, il dit rien parce qu'ils sont éliminés. Enfin, c'était quand même assez… c'était pas contre Rennes d'ailleurs ?
Si, c'était contre Rennes en finale de la Coupe de France.
Voilà, c'est marrant le parallèle. Et finalement, il a fini par le regretter parce que, je le répète, on sait ce qu'on a avec lui. Vous savez qui me fait penser, moi, Genesio, un peu à Jacques Santini. Un peu. Alors, c'est un peu du sous-Santini, parce que je pense que Santini était plus haut, malgré ce qu'on lui reprochait. Moi, je me souviens très bien quand il est nommé à la tête de l'équipe de France. Moi, le premier, je regrette que ce ne soit pas Raymond Domenech. Je me dis, oh, Jacques Santini, bah, mine de rien, pendant les éliminatoires, pendant 2 ans, il fait du super boulot. Les Bleus font un 8-8 en qualif. L'Euro, c'est pas terrible, mais bon, il a eu peur. Il avait signé à Tottenham avant, donc c'était encore autre chose. Mais je trouve que c'était pas mal. Et finalement, on a un peu ce côté-là d'entraîneur qui n'a pas la carte aussi, tout simplement. Il n'a pas la carte. C'est que on juge qu'il n'est pas assez glamour. Donc ça, il le paiera toujours, malheureusement. Et ses coups d'éclat, comme tu l'as dit, je rigolais tout à l'heure, je disais Pep Genesio. Alors, il y a un côté sympathique parce que c'était contre Guardiola.
Mais méprisant aussi.
Mais c'est un petit peu méprisant quand même. Voilà. C'est pas, même si je ne le pense pas comme ça, ça fait sourire. Voilà. Et c'est un peu injuste et je me mets à sa place, ça doit être injuste. Voilà.
Parce qu'il n'y a pas de grande carrière de joueur derrière, parce que c'est un vrai Lyonnais du cru, parce qu'il a été un peu caricaturé comme le mec qui donne les clés à ses joueurs. C'est un peu plus que ça quand même, Genesio. Et tu ne restes pas 3 ans et demi sur le banc de l'OL parce que tes copains avec Jean-Michel Aulas, c'est copain avec les joueurs. Il n'y a pas que ça.
Et puis, si tu te mets à la place des supporters lyonnais, bon, alors après, il y a eu sûrement du débordement qui n'était pas justifié, qui n'était même pas sûrement, ce n'était pas justifié, mais n'empêche que c'est sûr que quand tu sors de la décennie 2000, tu gagnes tout, tu as des entraîneurs comme Gérard Rouillet, Paul Le Guen et compagnie, tu te retrouves avec Bruno Genesio, tu te dis forcément, il y a une forme de... C'est moins bien, voilà, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il ne mérite pas ça. Et tout simplement, je pense qu'il sera bon dans un projet qui lui ressemblera. Est-ce que c'est Rennes? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Et je le jugerai pas totalement sur cette fin de saison parce qu'il va forcément. Non. Je pense qu'il va apporter une forme de sérénité. Voilà. C'est une équipe
Genesio, c'est un plat du pied. C'est plat du pied sécurité. C'est un livret A. Tu vois, c'est le placement. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est vrai que. C'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas pensé, mais quand tu passes de Stéphane, qui avait peut-être des défauts, mais qui en tout cas a amené Rennes dans une certaine dimension, qui recouvre beaucoup, pour le coup, c'est le jeune entraîneur en vogue.
L'image que tu donnes aussi.
Ouais, c'est le jeune entraîneur en vogue. C'est passer de Stéphane à Genesio, c'est presque passer de Deschamps à Santini, quoi. Non, mais c'est en tout cas, voilà, c'est le tube du moment où tu passes à quelque chose d'un peu plus ronronnant, mais tu sais qu'il y aura. Peut-être, sans doute, un niveau moyen qui sera peut-être une saison.
C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet forcément sur la fin de saison parce que je pense que ça peut fonctionner. Il reste une dizaine de matchs. Voilà, il n'y a pas de raison. Après, quand tu réamorces la suite et que tu veux reprendre le cours de ton évolution, je ne sais pas, voilà, tout simplement. Mais pour être honnête, je ne sais pas parce que finalement, c'est la première fois qu'il se retrouve dans un club de ce calibre-là. Mais comme c'est un club qui a envie de pointer plus vers l'OL que vers le milieu du championnat, j'ai un petit doute, mais on verra. Mais en tout cas, je pense que voilà, les Rennais, ils savent ce qu'ils ont, là, tout simplement. Et ça, c'est déjà un avantage. Parce que, alors, on va faire un parallèle qui ne vaut rien, mais quand même, Sampaoli, il arrive à Marseille, c'est très bien. Mais c'est un gigantesque point d'interrogation. Ça, et alors que, bon, je ne dis pas que Genesio aurait été mieux à Marseille. Là. Je pense que le couple n'aurait pas mieux fonctionné, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au moins, voilà, il y a une forme d'incertitude qui est, on va dire, levée jusqu'à la fin de saison. Puis après. On verra.
Non, mais ce qui va être rigolo, c'est peut-être que si Garcia ne poursuit pas à Lyon, et c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui, ce sera peut-être Stéphane à l'OL et Genesio à Rennes l'année prochaine. C'est dans un jeu de miroir qui est plutôt rigolo. On n'en est évidemment pas là, mais moi, autant. C'était quelque chose qui m'irait bien aussi, de voir Stéphane à l'Olympique Lyonnais pour passer la marche d'après dans un club formateur, etc. Ouais. Je me dis que c'est quelque chose qui aurait de la tronche.
Je pense que c'est un peu écrit, et surtout ce qui est écrit, si j'en crois les paroles de Aulas récemment, qui disait en substance Rudy Garcia, il est très bien pour gérer le court terme. Donc, bon, ça laisse comprendre la suite.
On va terminer cette émission, Maxime, avec le FC Barcelone, qui retrouvera le Paris Saint-Germain en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ce sera compliqué pour le FC Barcelone. Et est-ce que Antoine Griezmann va jouer? Alors, rien n'est moins sûr. On a regardé les derniers matchs d'Antoine Griezmann. Il a démarré les trois derniers sur le banc. Il a joué 71 minutes lors des trois derniers matchs du FC Barcelone. Étonnant quand on sait qu'il avait fait un super mois de janvier, un très bon début du mois de février aussi, notamment en Coupe du Roi. Il avait sauvé le FC Barcelone de quelques situations un petit peu périlleuses. Mais sa bonne période ne l'a protégé de rien et que quand il faut sacrifier quelqu'un, bah, c'est Griezmann qui y passe. Koeman a décidé de changer de système, de passer en 3-5-2 pour sécuriser un petit peu Piqué notamment derrière, lui mettre deux défenseurs centraux à ses côtés parce qu'on sait que sinon c'est un peu compliqué. Ça a marché en Liga, il a continué en Coupe du Roi et du coup, qui en a fait les frais, c'est Antoine Griezmann. Maxime, Antoine Griezmann qui passe en anonyme super sub, c'est encore une pierre dans le jardin du champion du monde.
Ouais, et c'est bon, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais c'est vrai que il y a eu ce doublé contre Alavés juste avant le PSG, où on s'est dit oh là là attention, et même le Barça, on s'est dit oh là là attention, le Barça ça revient bien. Puis il y a eu le PSG, ça a complètement déraillé. Cadix, c'était pas terrible non plus. Il sort à l'heure de jeu, et puis derrière, comme tu as dit, ces trois matchs où il est remplaçant. Alors il donne une passe décisive en coupe en rentrant le but de l'égalisation. À Gérard Piqué, justement, oui. Et on a quand même l'impression que, encore une fois, on est reparti, j'allais dire, comme en 14, et que, je le répète, je pense que ça ne marchera jamais complètement, voilà, tout simplement, parce qu'il y aura toujours, entre guillemets, cette faute originelle, cette première saison qui ne fonctionne pas, un vestiaire qu'il n'a pas forcément bien accepté, son refus de 2018, toutes ces choses-là, ça va vous paraître anecdotique, mais quand il y a cette passe d'armes avec Piqué, qu'on a tous entendu, puisqu'il y avait
pas public
face au PSG, bon, la violence des insultes, quand même, je ne suis pas sûr que Piqué parle comme ça à Busquets ou à les deux. Ouais, voilà. Non, mais c'est au-delà du statut. Je pense qu'il y a un lien. Je veux dire, vous avez déjà joué au foot avec des copains ou avec des coéquipiers. Si vous arrivez à parler comme ça à un coéquipier, c'est qu'il y a quelque chose quand même de plus profond. Il ne faut pas surinterpréter tout, mais je trouve quand même que c'était un peu violent, les échanges. Puis comme tu l'as dit, ils sont passés dans un système qui les a plus sécurisés en 3-5-2, et puis ça a fait une victime. Et c'est toujours le usual suspect, la victime évidente, Antoine Griezmann. C'est terrible, hein, mais c'est le plus facile par son caractère, par tout, à
Ouais,
sortir
exactement.
du 11.
Ouais,
Et
c'est vrai.
manque de pause, ce qui fait aussi son malheur, c'est qu'Ousmane Dembélé, dans une forme éblouissante, c'est à son tour d'être très bon. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais en tout cas, il se retrouve sur le banc. Donc, je vais vous dire que jusqu'à la fin de saison, il y aura des moments de mieux, comme d'habitude, mais je pense que ça ne sera jamais parfait. Et je répéterai ce qu'on disait ici il y a peut-être 2, 3 mois. La meilleure solution, c'est d'essayer d'aller voir ailleurs à l'été prochain, parce que, hormis s'il y a un énorme coup de balai au Barça, enfin, je le vois pas réussir, tout simplement, vraiment comme on aurait espéré qu'il réussisse.
C'est la variable d'ajustement en fait, Antoine Griezmann du Barça. Et je pense qu'il y a aussi, je suis pas sûr qu'avec Koeman ce soit l'entente fantastique.
Non.
On sait qu'il y avait eu quelques pics en conférence de presse. Quand tu parles de Piqué, qu'il a piqué, ouais, bon, c'est pas très heureux, mais Piqué qu'il a chauffé, on va dire, sur le terrain.
Ouais.
Mais Koeman aussi l'avait bien attaqué en conférence de presse en début de saison quand il est arrivé, après l'avoir caressé dans le sens du poil. Et on sent que là, effectivement, c'est ce que tu dis, il l'enlève parce que c'est facile et puis parce que je pense qu'il n'est pas à 100% convaincu par Griezmann. Moi, le problème que ça va poser, je pense, et notamment s'il y a une élimination sévère en Ligue des Champions, en huitième de finale de la Ligue des Champions, là, c'est quand même ce qui se présage, c'est qu'il va incarner l'échec, Griezmann. La semaine prochaine, je vous assure que si Paris passe, et c'est quand même bien parti, si en plus il y a une nouvelle défaite du Barça, et si en plus il y a une nouvelle déculottée, ça va être le grand procès du Barça en fin de semaine prochaine. Qui va prendre? C'est pas Koeman. Il va prendre un petit peu Koeman, mais ça ne va pas être lui en première ligne parce qu'il a arrêté d'une situation un peu compliquée, parce que ça va un peu mieux en Liga. Bon, ce ne sera pas Messi. Ce ne sera jamais
Messi pour
Messi.
jamais.
Non. Ce sera Busquets, Piqué et Griezmann. Les deux premiers parce qu'ils incarnent justement ce vieux Barça en décrépitude et le déclassement total d'une certaine idée du Barça. Donc eux, ils vont prendre cher, c'est sûr. Et aussi Griezmann, parce que lui, il va incarner autre chose, il va incarner les investissements et le virage raté du Barça. Donc ça va être ces deux aspects-là. C'est une certitude, on va ressortir le montant de son transfert, etc. Et celui qui va trinquer, ça va être Griezmann. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ici même. C'est une certitude, alors sauf s'il en marque 4 au parc, mais j'ai un doute. Et c'est pour ça que ça pose problème pour Griezmann. C'est parce que, voilà, aujourd'hui, moi je pense qu'il est évidemment. Il est victime, mais il est responsable à la base d'avoir voulu aller, d'avoir refusé d'y être allé, de ne pas avoir pris la mesure de l'importance de Messi, de son rôle, de comment on intègre tactiquement tout ça. C'est un tout et qu'aujourd'hui, il est dans une espèce de spirale. Évidemment, il y a des coups d'éclat, il y a des choses qui se passent bien, mais si on regarde la trame, le long terme, c'est très dur, c'est très très dur et je pense que ça risque de lui exploser dans la tronche dans une semaine.
C'est compliqué quand vous êtes un joueur comme lui qui est une star. Moi, j'estime que Griezmann est un grand joueur et que sur les 5 dernières années, ça fait
T'as
partie
raison,
des
oui.
du top 3, top 4. Si on lisse évidemment depuis l'Euro 2016, c'est quand même un très grand joueur. Il est arrivé, il s'est mis dans la position de, je vais pas dire une position d'attente, mais de devoir se faire accepter. En fait, finalement, quand vous êtes une star, vous ne vous faites pas accepter. C'est-à-dire que
Oui, mais c'est
vous
son
arrivez.
caractère.
C'est son
C'est
caractère. Ouais, bah, c'est ça.
Philippe Montagnier hein, qui nous disait ça,
C'est
son ancien
exactement ça.
entraîneur à la Sociedad, qui disait Griezmann, il n'a pas d'ego, il s'en fout. Ce
Voilà.
qu'il veut, c'est jouer avec ses copains. Et s'il faut servir Messi et se mettre dans l'ombre, il n'y a aucun problème.
Et
Et il faisait une analogie très juste avec l'équipe de France.
ouais.
Quand fallait servir Benzema, il
Mais
n'y
oui.
avait aucun souci. Quand faut être le sergent de Mbappé, il n'y a aucun souci. Quand faut faire briller Pogba, il n'y a aucun souci. Lui, c'est l'huile dans les rouages.
C'est
C'est ça
marrant
le.
qu'il ait pas tenté de mettre du poing sur la table. J'allais dire perdu pour perdu. On essaye de... Mais c'est pas son caractère, tout simplement, ce
Son
que tu dis.
caractère.
Voilà, tout simplement, il n'y arrivera pas pour ça parce que je pense qu'il est trop. C'est
Trop bon
ça,
camarade.
trop bon camarade et que quand il faut
Il a un
sortir
sens du
quelqu'un.
collectif aussi.
Ah oui. Et je pense que voilà, il a les défauts de ses qualités sur le terrain aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de tout bien faire. Bah, quand vous avez S'il faut sortir un point, qu'il n'y a pas de point saillant, qu'il faut sortir quelqu'un, on le sort lui. Voilà, Dembélé, en général, il joue sur sa rapidité, sur son travail, sur sa finition. Bon, bah, Griezmann, on le met de côté parce qu'on sait finalement que quand il va rentrer, il peut apporter quelque chose et on peut se servir. Et justement, on parlait du remplaçant. L'avantage de Griezmann, c'est que vous pouvez le faire rentrer à plusieurs postes et que ça pose pas de problème. Et comme il va pas faire de a priori trop de remue-ménage dans le vestiaire, et ben c'est très bien comme ça. Donc je ne suis pas sûr qu'il reste remplaçant jusqu'à fin d'année. Il sera peut-être même titulaire face au PSG. Mais ça restera, je pense, à terme, deux ans ratés pour lui. Et c'est bien dommage, surtout à son âge.
Merci Maxime, tu as été brillant. Et je remarque que cette lumière, vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent en podcast, allez le voir parce que les yeux de Maxime n'ont jamais été aussi bleus qu'aujourd'hui. Je me perds dans ton azur, Maxime. Là, j'ai l'impression d'être au milieu de la Méditerranée. Enfin non, même pas, j'ai l'impression d'être aux Seychelles. Là, tu vois, le bleu de tes yeux. Si on avait encore une demi-heure devant nous, je t'écrirais une chanson.
Bah écoute, ça peut faire l'intro de la prochaine émission.
Je t'écris une chanson. Mais je ne chante pas parce que ça sera très très compliqué. Merci de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast Eurosport.
Allez, et en attendant, beaucoup de choses sur Eurosport, sur l'application Eurosport, Strade Bianche, Paris-Nice, la Coupe de France, le ski, la fin du tournoi de Rotterdam. Bon, bref, il y en a pour tous les goûts. Régalez-vous, rendez-vous sur Eurosport.fr.
Exactement. Et quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.